Bien, j'ai indiqué au tableau, comme d'habitude, les prochains séminaires. Donc, tout à l'heure, à 11h, ce sera Philippe Laurent, du Bureau national de métrologie LPTF Observatoire de Paris, qui nous parlera de récents développements sur les horloges d'atomes froids au BNM LPTF. Mardi prochain, le 7 décembre, ce sera Jacques Baudon, du Laboratoire de physique des lasers à Paris Nord, qui nous parlera de modulation du profil transverse d'un jet atomique par interférométrie Stern-Gerlach. Et enfin, le dernier mardi du cours de cette année, le 14 décembre, ce sera Wolfgang Gerstner de l'Institut de Quantum Optics de Hanovre qui nous parlera de Manipulation and Phase Engineering of Bose-Einstein Condensate. Bien, avant de commencer le cours d'aujourd'hui, je voudrais peut-être revenir un tout petit peu sur le cours de la semaine passée. En effet, certains d'entre vous m'ont fait des remarques concernant les transitions à un photon et à deux photons. Quand on a un problème faisant intervenir un état fondamental F et un état excité E de largeur naturelle gamma, il ne faut pas croire évidemment que tous les signaux qu'on peut obtenir sur un tel système sont des signaux ayant une largeur gamma. Ils ont une largeur gamma si on envoie sur un ensemble d'atomes à deux niveaux de ce type, ayant une certaine distribution de vitesse, un faisceau laser monochromatique, qu'on mesure l'absorption de ce faisceau laser. En mettant, par exemple, sur le trajet du faisceau laser après traversée de la vapeur, un détecteur photoélectrique qui mesure la transmission du faisceau laser. Et si on balaye la fréquence du faisceau laser, on obtient une courbe ayant la largeur naturelle, dont la position est centrée à la fréquence atomique corrigée de l'énergie de recul et déplacée par l'effet Doppler. Alors évidemment, si on veut mesurer la vitesse de cette manière, on est limité par largeur naturelle gamma. Mais sur un atome à deux niveaux, on peut obtenir d'autres types de signaux qui sont des signaux de diffusion, qui font intervenir deux photons, un absorbé, l'autre émis. Cela, c'est une diffusion. Et dans ce cas-là, on peut avoir des signaux dont la largeur est plus petite que la largeur naturelle du niveau cité, et qui largeur qui n'est déterminée que par la largeur de l'état fondamental et le temps d'interaction. C'est ce que j'ai dessiné ici, toujours en atome à deux niveaux, FE, et on a ici un processus de diffusion à deux photons. Un photon est absorbé et un photon est émis, l'état final étant F. Dans ce cas-là, ce que j'ai dessiné avec un petit trait ondulé, le deuxième photon est un photon émis spontanément, dans un mode qui était vide du champ. Alors l'expérience consiste à ce moment-là à envoyer sur l'ensemble des atomes un faisceau laser, à se placer dans une autre direction, et avec un détecteur, on regarde la lumière diffusée dans cette direction. Et on enregistre le spectre de la lumière diffusée, le faisceau laser étant fixe. D'accord ? Dans ce moment, on ne balaye plus le faisceau laser qui excite les atomes fixes, et on regarde le spectre de la lumière diffusée. Et à intensité lumineuse suffisamment faible pour qu'on se limite à des processus de photons intervenir qu'un photon laser, vous voyez bien que la conservation d'énergie implique ici que le photon diffusé a la même énergie que le photon incident à la correction près d'énergie de recul et d'effet Doppler. Si au lieu de dessiner ce petit diagramme qui est habituel, qu'on ne se préoccupe pas des degrés de liberté externe, on dessine celui-là, à ce moment-là on part de cet état, on absorbe un photon, on gagne cette impulsion, et puis on émet de manière spontanée un photon, on termine là, et à ce moment-là on a une diffusion relais, qui est corrigé par l'énergie de recul et qui est corrigé aussi par l'effet Doppler. Et à ce moment-là, la fréquence, le photon laser étant fixe, la fréquence du photon diffusé est très étroite et ne dépend pas de gamma. Donc on peut faire de la spectroscopie, de la vélocimétrie Doppler de cette manière. Alors ici, c'est un effet relais stimulé. On peut également mettre un faisceau laser incident et puis un deuxième faisceau laser dans une autre direction, le faisceau laser incident le maintient fixe, et on balaye la fréquence du deuxième faisceau, et à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est de l'effet Rayleigh stimulé, ou de l'effet Compton stimulé, ou des résonances induites par les reculs, ou de l'effet Bragg. À ce moment-là, le dessin est représenté ici, le deuxième photon est un photon stimulé, qui est stimulé par la présence du faisceau laser. Et c'est ce deuxième processus que j'ai utilisé la semaine dernière, que j'ai discuté la semaine dernière, pour mesurer la distribution des vitesses de l'atome. Donc, l'observation de ray de largeur plus petite que la largeur naturelle peut être obtenue sur un système à deux niveaux, à condition de regarder non pas un processus d'absorption, mais un processus de diffusion. Et effectivement, ces processus spontanés en particulier ont été utilisés par plusieurs auteurs, en particulier à Gettysburg, pour mesurer des descriptions de vitesse également d'atomes froids. Donc, je pensais qu'il fallait mettre ce point en clair pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Et je passe maintenant donc au cours d'aujourd'hui, qui est toujours l'étude de la longueur de cohérence d'un condensat. C'est un problème important, donc il a été abordé par plusieurs méthodes différentes. La semaine dernière, j'ai parlé de la méthode suivie à MIT, qui consiste à mesurer la distribution d'impulsion et à étudier la largeur de la distribution d'impulsion delta P, de comparer H bar sur delta P à l'extension spatiale du condensat. Aujourd'hui, nous allons prendre une autre méthode qui a été suivie à Gettysburg. Et dont le principe est différent. Donc, je vais d'abord donner rapidement le principe et également, avant de décrire cette expérience, faire le lien avec d'autres expériences analogues qui ont été faites dans le domaine des atomes froids sans nécessairement qu'il y ait un condensat. Donc, l'idée de cette deuxième méthode, donc, qui est décrite, je vais mettre cette référence sur l'autre transparent. C'est une expérience qui est décrite dans cette publication par le groupe de Gettysburg. L'idée de cette expérience consiste à préparer deux copies, entre guillemets, du même condensat, séparées d'une certaine distance petit a. Deux copies identiques. C'est ce que j'ai dessiné ici, en marron et en rouge. Une certaine fonction d'onde psi 1 de R, une deuxième fonction d'onde psi 2 de R qui est identique à la première, à part que psi 2 de R, c'est psi 2 R moins A. Elle est simplement translatée d'une quantité petit a. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure un signal, et j'expliquerai bien sûr comment, proportionnel au produit scalaire, ou si vous voulez encore, à l'intégrale de recouvrement de ces deux fonctions d'onde. On mesure donc un signal I, qui est somme de psi 2 étoile de R, psi 1 de R, et en remplaçant psi 1, psi 2 par leurs expressions, c'est psi étoile de R moins A, psi 2 R, D3 R. Comme en changeant de variable, en prenant R, R plus A, c'est aussi psi étoile de R, psi de R plus A. Et vous reconnaissez ici la matrice densité rho de 1 à une particule prise entre R et R plus A. Autrement dit, ce signal proportionnel à l'intégrale de recouvrement, ce n'est rien d'autre que l'élément de la matrice densité entre deux points R et R plus A. C'est ce que j'avais appelé la cohérence spatiale entre R et R plus A. Donc, on mesure ce signal, et donc ce qu'on fait, c'est qu'on mesure directement la cohérence spatiale globale G de A que j'ai introduite dans le cours précédent. On la mesure directement maintenant. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure cette intégrale de recouvrement pour diverses valeurs de petit a, de l'écart entre les deux fonctions d'onde. C'est-à-dire qu'on étudie la variation avec petit a de cette intégrale de recouvrement. Alors, il est clair que si la phase du condensat est la même en tous les points du condensat, la variation de l'intégrale de recouvrement ne va provenir que des variations d'amplitude, et quand on déplace les deux condensats l'un par rapport à l'autre, quand ils ne se recouvrent plus, l'intégrale de recouvrement est nulle. Donc on va mesurer un signal dont la largeur va être de l'ordre de grandeur de la largeur du condensat lui-même, c'est-à-dire la longueur de cohérence. Donc, ce qu'on va faire, c'est mesurer cette intégrale de recouvrement et voir si les variations, la décroissance de I avec A se fait sur une distance qui est de l'ordre de l'extension spatiale du condensat. En d'autres termes, au lieu de mesurer directement, au lieu de mesurer plutôt indirectement, comme on le faisait la semaine dernière, la distribution d'impulsion P de P, puis par transformée de Fourier, d'en déduire la fonction de cohérence spatiale, ici on mesure directement la fonction de cohérence spatiale. Alors, avant de décrire cette expérience, comme je vous l'ai dit, de même que la semaine dernière, j'avais décrit des expériences précédentes sur des atomes froids qui utilisaient un même principe, je voudrais vous montrer qu'il y a également eu des mesures de G2A sur des nuages d'atomes ultra-froids, non nécessairement condensés, obtenus par refroidissement subrecul à des températures de l'ordre du nano-Kelvin, utilisant des résonances noires sélectives en vitesse. Là, c'est la référence 2 que j'ai mentionnée ici. Alors, dans le refroidissement subrecul par résonance noire sélective en vitesse, qu'on appelle aussi VSCPT pour Velocity Selective Coherent Population Trapping, je vais peut-être rappeler le principe ici. On travaille sur la transition 2,3S1, 2,3P1 de l'hélium, et les seuls niveaux qui jouent un rôle important, c'est le niveau Zeeman M égale moins 1 de l'état fondamental, M égale plus 1 de l'état fondamental, et l'état M égale 0 de l'état excité. Et ces deux transitions, moins 1, 0 et plus 1, 0, sont excitées par deux faisceaux lasers se propageant dans des sens opposés, sigma plus venant de la gauche et sigma moins venant de la droite. Alors la conservation du moment cinétique fait que ce faisceau couple cet état à celui-là, et ce faisceau cet état à celui-là. Il y a également la conservation de la quantité de mouvement qu'il faut faire intervenir, de sorte que si je considère un état M égale 0 avec une impulsion P le long de cet axe, pour arriver dans cet état, par absorption d'un photon qui transporte une quantité de mouvement plus h bar k dans cette direction, je dois nécessairement partir ici de l'état P moins h bar k. De manière qu'en ajoutant h bar k à P moins h bar k, j'aboutis à P. De même, pour aboutir à cet état par absorption de photon sigma moins qui a une quantité de mouvement moins h bar k, il faut que je parte ici de l'état P plus h bar k pour que P plus h bar k moins h bar k me donne P. Donc les états qui sont couplés par le processus d'excitation des deux ondes laser partent donc de deux états fondamentaux qui diffèrent non seulement par le nombre quantique interne, moins 1 plus 1, mais qui diffèrent aussi par la quantité de mouvement P moins h bar k, P plus h bar k. On a donc deux niveaux fondamentaux qui ont des quantités de mouvement différents l'un de l'autre de plus de h bar k. Et alors, on comprend ce qu'on a ce qui se passe. Si on prépare l'atome dans une superposition linéaire de ces deux états, cette amplitude d'excitation et cette amplitude d'excitation vont interférer de manière quantique, et pour certaines superpositions linéaires, la probabilité d'absorber un photon sera nulle parce que les deux amplitudes interféreront destructivement. Et les atomes qui seront portés dans cette superposition d'état n'absorberont plus de la lumière et seront protégés des mauvais effets de la lumière qui est le recul aléatoire, et on aura un pic d'atomes froids qui sera autour de cet état. Donc, le refroidissement, j'explique ça très très brièvement, hein, c'est beaucoup plus expliqué en détail dans les références que je vous donne, mais le fait est que après un certain temps, cette méthode permet de préparer les atomes dans une superposition linéaire de l'état moins 1 et de l'état plus 1, avec des vitesses opposées, moins h bar k sur n dans ce côté-là, et plus h bar k sur n vers la droite. On a donc deux paquets d'ondes, m égale moins 1, m égale plus 1, différents par la vitesse moyenne, moins h bar k sur n, et plus h bar k sur n. Et tant qu'on a la lumière sur les atomes, ces paquets d'ondes ne bougent pas beaucoup. Quand on coupe la lumière, ils se séparent, et à ce moment-là, on a deux paquets d'ondes dont la distribution spatiale est la même et qui sont séparés par une distance petit a qui va être le temps pendant lequel on a coupé la lumière que multiplie la vitesse de recul relative 2 h bar k sur n. Donc après un temps taux d, on applique deux faisceaux laser sigma plus et sigma moins qui se propagent toujours dans cette même direction. L'absorption d'un photon sigma moins sur ce paquet d'ondes qui a une vitesse h bar k sur m va porter l'atome dans l'état m égale 0, et la quantité de mouvement communiquée par ce photon va immobiliser le paquet d'ondes. On va donc avoir un paquet d'ondes E0, atome m égale 0 immobile, et l'absorption du photon sigma plus sur ce paquet d'ondes va porter l'atome dans le même état E0 immobile, mais décalé parce qu'on parle de deux paquets d'ondes fondamentaux qui sont décalés l'un par rapport à l'autre. Donc après absorption du photon, l'état final est en fait une superposition linéaire de deux paquets d'ondes immobiles dans le même nombre quantique interne E0, et à ce moment-là, il faut tenir compte de leur interférence. Et la probabilité d'absorption va être le module au carré de cet état final, et suivant que les deux paquets d'ondes sont confondus, auquel cas l'interférence est parfaitement destructive ou séparée, auquel cas elle ne l'est plus, la probabilité d'absorption va passer la même. Donc on obtient un signal proportionnel à l'intégrale de recouvrement. De manière plus précise, on peut montrer que le signal que l'on observe est proportionnel. La probabilité d'excitation de l'atome est proportionnelle à 1 demi fois 1. 1, c'est le carré de ceci plus le carré de ceci. Et G de A, c'est le produit scalaire des deux, c'est-à-dire l'intégrale de recouvrement. Alors, pour cette expérience de refroidissement subrocul, la motivation de l'expérience, c'était pas de mesurer la longueur de cohérence, c'était de mesurer la distribution d'impulsion. Parce qu'avec le refroidissement subrocul, on peut atteindre des températures de l'ordre du nano-Kelvin, et c'est pas du tout facile de mesurer le nano-Kelvin par les méthodes traditionnelles. La méthode traditionnelle consiste à utiliser une méthode de temps de vol, on coupe le faisceau laser, on regarde comment le nuage subit l'expansion balistique. Dans le cas du refroidissement subrocul, la densité du nuage est suffisamment faible pour qu'on puisse complètement ignorer les interactions. On n'est pas gêné par l'explosion balistique liée aux interactions répulsives entre les atomes. Donc c'est pas ça qui gêne. Par contre, on part d'un nuage d'atomes froids qui est gros. Dans les expériences de refroidissement subrocul, le nuage d'atomes froids n'est de quelques millimètres, 1 ou 2 millimètres, beaucoup plus grand que dans les expériences de condensation de Bose-Einstein, où le nuage d'atomes froids est de quelques dizaines de microns. À ce moment-là, le nuage est gros et l'agrandissement du nuage lié aux dispersions de vitesse est trop petit pour pouvoir être mesuré de manière précise. Donc il est très difficile de mesurer par temps de vol des températures de l'ordre du nano-Kelvin. Par contre, cette méthode-là, qui mesure G de A, permet de mesurer la transformée de Fourier de P de P, donc déduire la distribution d'impulsion. Si vous voulez, j'aime bien à ce niveau faire l'analogie avec la spectroscopie de Fourier en optique. En optique, quand on a une raie très étroite et que le spectromètre qui essaye de mesurer cette raie n'a pas une résolution suffisante pour résoudre la raie, il y a une spectroscopie qu'on utilise, qu'on appelle la spectroscopie de Fourier, qui consiste à prendre des trains d'ondes lumineux, à les séparer en deux par une lame séparatrice, à retarder l'un par rapport à l'autre dans un interféromètre de Michelson, puis à les recombiner. Et à ce moment-là, on mesure l'intégrale de recouvrement des deux paquets d'ondes, et pour un délai variable, le signal est proportionnel à la transformée Fourier du spectre. Et quand le spectre est très étroit, il est plus simple de mesurer la transformée Fourier qu'il a. Donc c'est le même principe qu'on a utilisé dans cette méthode. Et ici, une figure extraite de la référence 2, où on voit une impulsion donc, de refroidissement par résonance noire de durée θ. On coupe les faisceaux laser pendant le temps taux d, qui est la période noire pendant laquelle taux d'arc, pendant lequel les deux paquets d'ondes s'écartent, et on applique l'impulsion sonde. Et voici le signal qui est proportionnel à 1,5 plus G de A. Et vous voyez que cette courbe-là donne la transformée de Fourier de la distribution d'impulsion. Et dans cette expérience concrète, delta P, la dispersion d'impulsion était 25 fois plus petite que l'impulsion d'un photon unique, H bar K, la température étant donc 625 fois plus petite que la température de recul, c'est-à-dire pour l'hélium de 8 nano-Kelvin. Donc cette méthode était déjà utilisée pour les atomes froids. Alors je passe maintenant donc à l'expérience proprement dite. Et le premier problème qu'il nous faut résoudre, c'est comment préparer une copie d'un condensat. Comment dupliquer un condensat. C'est ça le premier problème. Alors ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que préparer une copie d'un condensat peut être réalisé simplement en effectuant une transition à deux photons par effirement stimulé entre deux états fondamentaux de même long quantique interne, exactement comme la semaine passée, mais maintenant, au lieu de prendre une impulsion laser très longue pour avoir une résolution très grande, on va prendre au contraire une impulsion laser très brève, dont la durée des impulsions tau est plus petite que H bar sur R recul ou R recul et l'énergie de recul. J'expliquerai pourquoi dans un petit moment. Dans l'expérience du cours précédent, on avait au contraire des impulsions dont la durée était plusieurs centaines de microsecondes, de manière à avoir taux plus grand que H bar sur R recul, et de manière à avoir une résolution liée à la transformée de Fourier temporelle beaucoup plus précise que l'énergie de recul, de manière à pouvoir mesurer avec précision des distributions subrocul. Alors, il existe en fait une analogie très profonde entre ces deux situations, impulsion longue et impulsion brève, et des expériences qui ont été réalisées également dans le passé, essentiellement par le groupe de Dave Pritchard à MIT, une magnifique série d'expériences qui s'est étendue sur une dizaine d'années, consistant à étudier la diffraction d'un jet atomique par une onde laser stationnaire, par un réseau lumineux périodique, spatialement périodique. Donc, avant d'aborder encore l'expérience de Gaithersburg, il me semble indispensable de faire un rappel très bref sur ces expériences. Donc, diffraction de jet atomique par une onde laser stationnaire. C'est un petit peu les expériences réciproques de la diffusion d'une onde lumineuse par un réseau matériel périodique. Ici, l'onde lumineuse est remplacée par une onde de Broglie, et le réseau matériel périodique est remplacé par un réseau lumineux périodique. Donc, je fais un rappel très bref sur ces expériences, parce qu'ils nous permettront de comprendre l'origine des conditions de validité. Alors, les références sont les références 3 à 7, donc essentiellement du groupe de Dave Pritchard, et je rappelle que pendant l'année 93-94, j'ai fait un cours entier d'une année sur ce sujet-là. Donc on a une onde laser stationnaire avec un réseau périodique de périodicité lambda sur 2, parce que c'est l'intensité qui est périodique de lambda sur 2, la longueur d'onde de lambda. On envoie un jet atomique de vitesse V, donc la longueur d'onde de Broglie est CH sur MV, et on a un faisceau laser d'épaisseur petit d. Alors, il y a deux régimes très importants dans ce type d'expérience. Un régime qu'on appelle le régime de Raman-Nath. Alors, Raman-Nath, c'est l'épaisseur du long de laser est extrêmement faible. Et je vais dire tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire très petit. Si l'épaisseur est très petite, le temps de passage des atomes dans l'onde laser est très petit, et l'effet de la force que ces atomes ressentent est très faible, et les atomes se déplacent très peu dans l'onde, dans cette direction. Ils accumulent surtout un déphasage si jamais l'onde laser est désaccordée très loin de résonance. Le déplacement lumineux de l'onde laser introduit une correction d'énergie, donc un déphasage sur la fonction d'onde. On a donc l'équivalent d'un déphasage qui dépend de la position ici, on a donc un réseau de phases. C'est l'équivalent d'un réseau de phase optique. Et comme le pas du réseau lambda sur 2, les angles de diffraction par ce réseau de phase sont obtenus très simplement de la manière suivante. On a donc des ondes qui arrivent comme ceci, et j'y prends deux pas du réseau ici, successifs. Il faut que la différence de masse entre ces deux pas, qui est donnée par cette quantité-là, lambda sur 2, que multiplie le sinus de cet angle, soit égal à un nombre entier fois la longueur de l'onde de Broglie. Donc il faut que j'ai lambda optique sur 2 que multiplie sinus θ n, est égal à n lambda de Broglie. C'est-à-dire sinus θ n égale n, 2n lambda de Broglie sur lambda optique avec n égale plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 3. Alors ça, c'est une donnée d'interprétation ondulatoire. Il y a évidemment une interprétation corpusculaire très claire. C'est que si les atomes sont déviés, c'est qu'ils reçoivent une impulsion dans cette direction, et cette impulsion provient d'où ? Elle provient de ce qu'on appelle un processus de redistribution. Il y a un photon qui est absorbé dans cette onde, donc qui donne une quantité de moment h-barca optique, et puis un photon qui est émis de manière stimulée dans l'autre onde, qui donne un deuxième transfert d'impulsion h-barca optique dans la même direction. Et puis ça, je peux recommencer n fois, donc c'est un transfert d'impulsion 2n h-barca optique par des processus de redistribution, absorption dans une onde suivie d'une émission stimulée dans l'autre onde. Et à ce moment-là, on a un transfert d'impulsion 2n h-barca optique, et l'angle, à ce moment-là, c'est sinus θ n égale la condition de diffraction que j'ai écrite tout à l'heure, en remplaçant h-barca. Je peux l'écrire 2n h-barca optique égale mv, la quantité de mouvement dans cette direction, la quantité de mouvement reçu là-dedans, mv sinus θ n, et en remplaçant h-barca optique par h sur lambda optique, mv par h sur lambda de Broglie, je retrouve la même condition que tout à l'heure. Alors là, il y a un petit problème paradoxal qui apparaît tout de suite, c'est que comme l'onde lumineuse stationnaire, l'intensité est indépendante du temps, on a la diffusion d'une particule par un potentiel statique. Donc l'énergie de la particule ne peut pas changer. Également, on peut dire qu'on absorbe un certain nombre de photons et on réémet le même nombre de photons, donc le champ de rayonnement ne donne aucune énergie. Donc l'énergie de la particule incidente ne peut pas changer. Donc le module de la vitesse finale atomique doit être égal au module de la vitesse initiale. Et à ce moment-là, si je prends VI égale VS, et que j'essaie de relier ces deux vecteurs par deux H-bar chaotiques, je m'aperçois que le transfert d'impulsion n'est pas rigoureusement dans la direction Z, mais il fait un petit angle, petit θ, avec l'axe Z. Donc, le transfert d'impulsion n'est pas dirigé suivant la direction du faisceau laser. D'où une difficulté, mais qui est résolue immédiatement, qu'on réfléchit un petit peu. Comme le faisceau laser a une extension spatiale transverse finie, D, dans cette direction, il y a une incertitude d'impulsion correspondante dans cette direction, qui est H-bar sur D. Donc, le fait que le transfert d'impulsion n'est pas rigoureusement parallèle à Z, mais peut-être incliné, provient du fait que de l'extension spatiale finie du faisceau laser, extension spatiale petit d, qui entraîne une dispersion d'impulsion H bar sur D suivant l'axe OX. Et à ce moment-là, je trouve tout de suite la condition de validité de Raman-Nath. L'incertitude H bar sur D le long de l'axe OX doit être suffisamment grande, H bar du D doit être suffisamment grande pour permettre au transfert d'impulsion de long de laser de faire avec OZ un angle plus grand que les angles que j'ai calculés tout à l'heure, H bar chaotique sur MV. Donc je dois avoir H bar sur D, l'incertitude suivant X, divisé par H bar chaotique, l'impulsion le long de l'axe Z, qui est beaucoup plus grande, doit être plus grand que très grande par H bar chaotique sur MV, qui est l'angle que fait donc la droite reliant deux vecteurs de même longueur séparés par deux H bar K. S'il regarde cette quantité-là, si je fais passer D de ce côté, V, j'aurai donc D sur V, beaucoup plus petit que M sur H bar chaotique au carré, c'est-à-dire D sur V qui est le temps de traversée, beaucoup plus petit que H bar sur D sur EQ. Donc le régime de Raman-Nath est atteint quand le temps de traversée de l'atome de vitesse V, quand le temps qu'il met à traverser le faisceau laser est beaucoup, beaucoup plus petit que H bar sur RQ. Alors, le régime opposé, qu'on appelle le régime de Bragg, donc ça c'est H bar sur le temps de traversée D sur V, très très petit devant H bar sur RQ, et au contraire, le Bragg c'est D sur V, très très grand devant H bar sur RQ. On a à ce moment-là un faisceau laser très large, et la dispersion des photons dans cette direction ne permet pas, partant d'un faisceau parallèle à X, d'avoir un faisceau qui a subi une impulsion 2 H bar K le long de l'aile et qui a tourné dans l'angle θ. À ce moment-là, la seule façon de satisfaire à la fois la conservation de l'énergie et la conservation de l'impulsion, c'est d'arriver avec un faisceau laser qui fait un certain angle différent de pi sur 2 avec le faisceau laser. Et l'interprétation corpusculaire est ici. Le faisceau incident atomique, MVI, ne doit pas être dirigé suivant OX. On doit avoir MVI de ce côté, MVF ici, symétriquement disposé par rapport à l'axe OX, et le transfert d'impulsion de ZNH par chaotique, lui, est réellement le long de l'axe Z. Ce coup-ci, on ne peut pas le faire tourner dans ce sens-là. Et à ce moment-là, si j'appelle θn sur 2 cet angle, on doit avoir sinus θn sur 2 égale la moitié de ce vecteur, c'est-à-dire 2 ZNH par chaotique sur MV, c'est-à-dire n lambda de Bragg sur lambda optique. Donc la diffraction de Bragg maintenant est donnée par cette condition, 6 sinus θ n sur 2 égale n lambda de Bragg sur lambda optique. Et de manière ondulatoire, on retrouve l'image habituelle de la diffraction de Bragg, d'où le nom qui est donné à ce régime. On a des plans épiphase ici, et on a une onde de Bragg qui arrive ici, qui est diffractée dans cette direction, et il faut que ce déphasage, ce chemin-là, plus ce chemin, c'est-à-dire, ça c'est lambda sur 2, donc il faut que 2 fois lambda optique sur 2 que multiplie sinus θn sur 2 soit égal à un nombre entier fois la longueur d'onde de De Broglie, et je retrouve la même condition que tout à l'heure, sinus θn sur 2 égale n lambda de Broglie sur lambda optique. Donc, on voit ici deux régimes différents correspondant à deux types de diffraction différents. Alors, ce qui est important de voir aussi, c'est que la diffraction de Broglie est un processus cohérent. L'onde de Broglie qui résulte de la diffraction et l'onde incidente sont cohérentes. Et ceci a été démontré par des expériences. C'est la référence 7, c'est ici. On voit ici arriver un faisceau d'atomes de néon métastable, qui traverse successivement une première onde stationnaire lumineuse, une deuxième onde stationnaire lumineuse. Donc la première onde lumineuse donne une diffraction de vague et donne deux faisceaux. Ces deux faisceaux sont recombinés, ces deux faisceaux traversent une deuxième onde laser stationnaire avec une diffraction dans cette direction, une diffraction dans cette direction, et une troisième onde laser stationnaire recombine l'effet de deux faisceaux atomiques et on a une sortie en A, une sortie en B. Et comme il s'agit d'atomes de néon, d'état stable, on peut les détecter un par un, et en variant la position de ce miroir ici, on obtient des franges très très belles avec un très beau contraste. Ce qui montre que les deux ondes qui sont issues de cette première diffraction sont cohérentes l'une avec l'autre. Alors, ce que j'ai rappelé ici très brièvement, on peut reprendre le même problème maintenant et se placer dans le référentiel au repos de l'atome. Alors, dans le référentiel au repos de l'atome, le problème est différent. On a un atome qui ne voit rien du tout et puis qui est soumis à une impulsion laser pendant le temps qu'il met à traverser le faisceau laser. Donc, et on voit à ce moment-là que les régimes de Raman-Nath et de Bragg correspondent à un atome qui serait ici et auquel on appliquerait des impulsions laser se propageant en sens opposé dont la durée est soit courte, régime de Raman-Nath, soit longue devant H-bar sur RQ. Et la redistribution de photons entre les deux ondes qui forment l'onde stationnaire correspond cette fois-ci à un processus Raman stimulé entre deux niveaux fondamentaux de même nombre quantique interne, mais différent par le nombre quantique externe. Autre chose, vous voyez que dans le cas de la diffraction d'un jet atomique par un faisceau laser, le cas de la diffraction de Bragg correspond à une situation où le faisceau atomique incident n'est pas normal à l'onde laser. Donc dans le référentiel au repos, il y a un effet Doppler. Et l'effet Doppler est de sens opposé pour cette onde-là et pour cette onde-là. Donc si on veut faire l'équivalent du régime de Bragg pour des atomes initialement immobiles soumis à des impulsions laser, il faut prendre des impulsions laser de fréquences différentes. Alors que dans le régime de Nath, les deux impulsions laser ont la même fréquence. Et donc si on a maintenant un condensat et qu'on le soumet à deux impulsions laser se propageant dans des sens opposés, la situation équivalente au régime de Bragg, c'est taux très grand de Hallbar sur RQ. Et je vous rappelle le petit schéma que j'ai déjà donné la dernière fois. Deux impulsions laser de fréquences différentes qui font passer de l'état, par exemple, 0, P égale 0, E égale 0, à l'état K, P égale 0, P égale 2H bar K, E égale 2H bar K au carré sur 2M, c'est-à-dire 4 fois l'énergie de recul. Vous voyez à ce moment-là que le fait que l'impulsion laser ait une durée de vie très grande devant H-bar sur RQ, fait que la largeur des impulsions laser, la largeur spectrale des impulsions laser, est beaucoup plus petite que cette énergie, et permet donc de mesurer avec précision, permet de faire de la spectroscopie précise et de mesurer l'énergie du point K. On peut d'ailleurs faire des transitions Raman d'ordre supérieur, correspondant aux diffractions de Bragg d'ordre supérieur. J'en ai dessiné une ici. Et on voit ici qu'on a donc deux impulsions laser avec absorption de plusieurs photons dans la première suivie entrecoupée d'émissions stimulées dans la deuxième onde. Et on passe de là à là par N absorption, N émissions stimulées. Chaque fois, on a un désaccord delta de fréquence entre les deux ondes laser. Donc la différence d'ordonnée entre ces deux points, c'est N H bar delta. Ici, c'est 2N H bar K. Et la condition de résonance, c'est que N H bar delta égale N 4 H bar 2 K2 sur 2M, c'est-à-dire 4 fois 4N fois l'énergie de recul. Et on a donc à ce moment-là deux niveaux qui sont couplés de manière résonante par l'intermédiaire de plusieurs états intermédiaires. Et on peut se ramener à un problème à deux niveaux équivalents avec une fréquence de Rabi qui va être proportionnelle au produit de 2N amplitude de champ laser, donc à oméga 1 fréquence de Rabi d'une onde multipliée à la puissance 2N. Et la semaine dernière, ce que j'avais pris une impulsion, j'avais considéré des impulsions laser dont la durée de vie était extrêmement longue, elle était H bar sur taux, beaucoup plus petite que H bar K delta P sur M, de manière à pouvoir résoudre le profil Doppler du condensat. Des expériences de ce type ont été également faites à Gaithersburg, et il y en a une qui est très jolie ici que je vous remontre. Alors, l'échéance est faite de la manière suivante. On part d'un condensat. On le lâche. Voilà la forme du condensat, juste avant l'impulsion, vraiment. Et ici, on laisse une période d'expansion balistique de 6 millisecondes et on applique une impulsion rarement stimulée dans le régime de Bragg avec une durée d'impulsion de 55 microsecondes. Et à ce moment-là, la largeur de cette impulsion donne une résolution spectrale plus petite que la dispersion des vitesses du condensat. À ce moment-là, on enlève dans le nuage une tranche de vitesse et on la décale de 2 h barca et on voit sur cette figure-là les atomes qui ont quitté le condensat et qui ont laissé un trou derrière eux. Et on voit donc ici, on a sorti du condensat une certaine tranche de vitesse. Par contre, si on diminue considérablement delta P en ouvrant, en faisant une transformation adiabatique sur le piège, à ce moment-là, on peut partir d'un condensat dont la dispersion de vitesse est telle que l'effet Doppler correspondant ne peut pas être résolu par la largeur d'impulsion. À ce moment-là, c'est tout le condensat qui est transporté. Et vous voyez ici une série d'expériences. Quand on prend un désaccord delta égale 0 entre les deux faisceaux laser, on n'a pas de condition de résonance, donc le condensat n'est pas touché. Si on prend 98 kHz qui correspond à peu près à delta égale 4 h bar recul, 4 et recul, on fait passer de. On communique au condensat une impulsion de 2 h bar k et on obtient cette image-là. Si on prend deux fois plus grand, un désaccord 200 fois plus grand, on excite la résonance Bragg de n égale 2. On voit ici, on fait partie de ce condensat à un condensat 4 h bar k ici. Ici, 6 h bar k. Et si on change le signe du désaccord, on change le signe également du transfert d'impulsion. Donc ça, ce sont des impulsions laser longues. Si maintenant, on prend des impulsions laser courtes, à ce moment-là, elles n'ont plus besoin d'avoir des fréquences différentes, elles peuvent avoir la même fréquence. Et si elles sont très courtes, alors pour vous donner une idée qu'elles sont très courtes, H bar sur R recul pour le sodium, c'est 40 microsecondes. Donc, impulsion laser courte, c'est-à-dire plus petit que 40 microsecondes, et les expériences de la référence 1 correspondent à un temps d'impulsion de 100 nanosecondes. Donc, c'est beaucoup plus court que 40 microsecondes. À ce moment-là, il n'est plus nécessaire de prendre des lasers fréquences différentes, et à ce moment-là, toutes les classes de vitesse sont transférées. Et on fait donc une copie du condensat séparée de 2 h bar k, ou de 4 h bar k, ou de 6 h bar k. Donc, des transferts de toutes les classes de vitesse sont obtenus avec des changements d'impulsion, 2 n h bar k, n égale plus ou moins 1, n égale plus ou moins 2, n égale plus ou moins 3. On peut montrer que les efficacités sont proportionnelles à des fonctions de Bessel, et par suite, si l'intensité de l'onde laser est suffisamment faible, c'est surtout n égale plus 1 et n égale moins 1 qui vont être préparés. N égale 2 et n moins 2, on pourra négliger complètement les transferts d'impulsion de 4 h bar k, 6 h bar k, 8 h bar k. Bon, alors maintenant, je peux passer à l'expérience de Gaitesbourg. Donc, on fait des impulsions très brèves, d'ondes laser stationnaires, de durée plus petite que H bar sur R recul, 100 nanosecondes. Et une première impulsion, à l'instant t égale 0, crée deux copies du condensat, correspondant à n égale plus 1 et n égale moins 1. On a donc deux copies du condensat qui vont partir, l'une avec la vitesse 2 h bar k sur n, l'autre avec la vitesse moins 2 h bar k sur n. Ça rappelle un peu l'expérience de refroidissement par résonance noire. Mais ici, c'est 2 h bar k sur n de part et d'autre. Bon. À l'instant delta t, on attend un temps de delta t et on fait une deuxième impulsion laser, bref. On crée une deuxième paire de copies qui va être séparée de la première, de la distance qu'a parcouru la première paire pendant le temps delta t, c'est-à-dire 2 h bar k sur n delta t. C'est ce que j'ai dessiné ici. Le condensat qu'on peut appeler le condensat parent ici, en bleu, c'est la première paire de copies qui s'éloigne avec plus 2 h bar k sur n et moins 2 h bar k sur n. Et en rouge, c'est la deuxième paire de copies qui a été créée un instant delta t après la première et qui est donc séparée de la première par une distance 2 h bar k delta t sur n. Et en faisant varier l'instant delta t entre les deux paires, entre les deux impulsions, je peux varier la distance entre les deux copies qui s'éloignent à droite et les deux copies qui s'éloignent à gauche. Ici, j'ai dessiné ce qui se passe. une fois que les deux copies ont été créées, qu'elles sont en train de partir avec la vitesse 2 axes barre Cassurène dans un sens et dans l'autre. Et qu'est-ce qu'on mesure expérimentalement? On mesure le nombre total d'atomes qui s'éloignent vers la droite du condensat, N droite. Comme les deux copies sont cohérentes, elles viennent du même condensat, et le processus de diffraction est cohérent, il faut tenir compte de l'interférence entre les deux paquets d'ondes, entre les deux copies. Et j'aurai donc 1 au carré, la première fonction d'onde au carré, plus deuxième fonction d'onde au carré, plus deux fois l'intégrale de recouvrement. Donc le signal qui nous donne le nombre total d'atomes vers la droite, ce sera 1 plus un signal d'interférence. Et le signal d'interférence sera proportionnel à G de A en ces deux copies avec une distance A égale 2 h barré K delta T sur M. On recommence l'expérience avec plusieurs valeurs de delta T, donc petit a, et on obtient ainsi G de petit a en fonction de A. Donc on mesure vraiment la cohérence spatiale globale en fonction de A. Alors, on va essayer maintenant d'étudier un peu plus précisément ce qui se passe et d'étudier le déphasage entre les deux copies qui s'éloignent vers la droite. Et je vais d'abord négliger les interactions. Alors, je reviendrai après dessus. Quand la première copie est créée, et que la deuxième copie n'est pas encore créée, la première copie qui est créée a une énergie plus grande que le condensat, puisqu'elle a une énergie 4 fois l'énergie de recul. Quand la deuxième copie est créée un instant delta t après, la première copie a donc acquis un déphasage qui est 4 fois et recul, que multiplie le temps delta t pendant lequel elle a été toute seule, divisé par h bar. Donc la première copie a acquis un déphasage par rapport à la deuxième, qui est 4 et recul delta t sur h bar. Une fois que la deuxième copie est créée, elle aussi a l'énergie 4 et recul. Donc elle aussi va avoir la même énergie que la première. Donc tant qu'elle n'est pas créée, la première gagne une avance de phase, mais quand la deuxième est créée, les deux ensuite ont la même énergie et le déphasage entre les deux ne bouge plus. Donc il y a un déphasage entre les deux copies qui est 4 et recul delta t sur h bar. Si je me limite à des temps delta t petits, de manière que les deux copies ne se soient pas séparées spatialement, à ce moment-là, ça veut dire que les deux copies sont pratiquement l'une sur l'autre, mais elles ont un déphasage 4 et recul delta t sur h. Par conséquent, le signal d'interférence va être total, puisque les deux copies sont l'une sur l'autre, mais il va être modulé à la fréquence 4 et recul sur h. Donc je m'attends à ce que, tant que les deux copies ne se sont pas séparées spatialement, tant que le delta t n'est pas trop grand, le signal d'interférence va être modulé à la fréquence 4 et recul sur h. Puis, si delta t augmente beaucoup, à ce moment-là, les deux copies vont se séparer spatialement, le recouvrement ne va plus être 1, va être diminué, et à ce moment-là, l'intégrale de recouvrement va tendre vers 0. Autrement dit, on s'attend à ce que le nombre d'atomes allant vers la droite et l'allure suivante, une modulation entre 0 et une valeur maximale à la fréquence 4 recul sur h, et l'enveloppe de cette modulation décroissant en fonction de delta t, lorsque delta t atteint des valeurs telles que h bar k, 2 h bar k sur m delta t devient de l'ordre de grandeur de la dimension du condensat. Donc l'étude de la décroissance de l'enveloppe doit renseigner sur la longueur de cohérence du condensat. Alors, effet des interactions, les atomes qui subissent la transition Raman stimulée, comme je l'ai expliqué la dernière fois, ils gagnent non seulement l'énergie cinétique 4 fois l'énergie de recul, mais ils gagnent aussi une énergie d'interaction supplémentaire, parce que leur énergie d'interaction avec les autres n'est pas la même suivant qu'ils sont dans le condensat, suivant qu'ils se sont sortis. Et l'interaction supplémentaire va être Gn de R, où G c'est la constante de couplage due aux interactions, et N de R la densité locale. Donc c'est le même effet que celui discuté dans le cours 6. Alors on peut calculer l'ordre de grandeur de ces effets. Et ça va donc, au lieu d'osciller à 4 et recul sur H, ça va osciller à une fréquence différente. Et quand on fait le calcul, avec les ordres de grandeur de l'expérience, calcul qui est fait dans la référence 1, on trouve que ça ajoute 0,3 kHz à la fréquence de 100 kHz liée à qui est 4 et recul sur H. Donc c'est un effet petit dont on peut tenir compte, mais qui reste quand même négligeable devant l'effet essentiel qui est 4 et recul sur H. Donc, dans la suite, je n'en parlerai pas, étant bien entendu que les calculs qui sont présentés dans la référence 1 et les comparaisons de théorie et expérience tiennent compte donc de cet effet et se reposent sur une résolution numérique de l'équation de Gross-Pitevsky. Alors maintenant, je rentre vraiment dans le cœur de l'expérience. Ce n'est pas une expérience facile. Et la remarque est la suivante, c'est que, en principe, une paire d'impulsions à t égale 0 et à t égale delta t serait suffisante. Puis il faut recommencer avec une autre valeur de delta t. Mais d'une impulsion à l'autre, d'une expérience à l'autre, le nombre d'atomes condensés fluctue. D'autre part, l'intensité des intensités laser, le désaccord laser qui fait la transition rapidement fluctue. Donc il y a une fluctuation d'un coup sur l'autre. Et il serait intéressant de normaliser les signaux de manière à éliminer une partie de ces fluctuations. Alors la solution qui a été utilisée est très astucieuse. C'est que le même condensé apparent, on l'interroge non pas avec deux paires d'impulsions séparées de delta t, mais avec quatre paires d'impulsions. Une première paire séparée de delta t et une deuxième paire séparée de delta t plus 5 microsecondes. Alors pourquoi 5 microsecondes? Je vais expliquer. C'est que 5 microsecondes, c'est la demi-période d'oscillation 4 R cube sur H. Et qu'on a un phénomène périodique, si on prend la somme du phénomène périodique en deux instants séparés d'une demi-période, la somme des deux ne dépend pas de l'endroit où on se place. Si le premier est un maximum, l'autre est un minimum. Si le premier est à mi-chemin, le deuxième est aussi à mi-chemin. Donc, la somme, quand on a une sinusoïde, la somme de deux intensités en deux points séparés d'une demi-période est constante. Donc, cette somme peut servir à normaliser le signal. Et à ce moment-là, au lieu de mesurer le nombre total d'atomes qui part vers la droite après une paire d'impulsions séparées de delta t, on mesure nd delta t divisé par nd delta t plus nd delta t plus 5 microsecondes. Le dénominateur à ce moment-là est un facteur de normalisation qui ne dépend que du nombre d'atomes dans le condensat et qui ne dépend que de l'efficacité de transfert. Et donc ça permet, dans des runs différents correspondant à des valeurs différentes de delta t, de se débarrasser en partie des fluctuations du nombre d'atomes condensés et de l'efficacité du transfert. Donc la séquence temporelle est représentée ici. Alors je crains qu'elle ne soit pas très claire dans les photocopies parce que la réduction est trop grande. Ici, j'espère qu'elle est plus claire, qu'elle est transparente. Voilà la première impulsion. On applique une autre paire séparée de delta t plus 5 microsecondes. On a maintenant une deuxième paire qui va vers la droite après la première. Donc, qu'on fait la détection ici, avec l'image, on a le condensé apparent ici, la première paire qui est ici, et la deuxième paire qui est ici. On mesure le nombre d'atomes ici, plus le nombre d'atomes ici, et on prend le nombre d'atomes de la première paire, divisé par la somme des deux. Et on recommence l'expérience pour une autre valeur de delta petit t, et ainsi de suite. Voici le signal brut. Alors, en fonction du temps, 10 microsecondes, 15, 20, 25, 30. Ici, tout ce qu'il y a au centre, c'est le condensat. Le signal qu'on voit le plus à droite, c'est la première paire. Le signal qu'on voit au milieu ici, c'est la deuxième paire. Et vous voyez que quand la première paire est importante ici, la deuxième paire n'est pas absente. Au contraire, quand la première paire ne paraît pas beaucoup, la deuxième paire apparaît beaucoup, ce qui montre bien que la somme des deux est constante. Et quand on divise le signal de la première paire par la somme des deux, on obtient donc quelque chose qui varie avec une période de 10 microsecondes. Donc 5 microsecondes, c'est bien la demi-période. Et on obtient ici un signal qui est modulé à 4 R sur H. Et si on prend maintenant des temps beaucoup plus longs, ici c'était 10, 30 microsecondes, si on va à 200, 400, 600, 800 microsecondes, l'enveloppe de ce signal décroît bien, et tend vers zéro. Et voilà les points expérimentaux. Et ça, c'est la courbe théorique résulte de la résolution numérique de l'équation de Gross-Pitevsky quand on suppose que la phase du condensat est la même en tous les points. Vous voyez qu'il y a un accord relativement satisfaisant qui semble indiquer que la longueur de cohérence du condensat est bien de l'ordre de grandeur de la dimension spatiale du condensat. Alors, ici, on sonde le condensat piégé. On peut aussi regarder ce qui se passe lorsqu'on coupe le piège et que le condensat est en expansion balistique. Quand le condensat est en expansion balistique, les interactions répulsives entre atomes conduisent à une accélération des vitesses, à une augmentation des vitesses due à l'accélération communiquée par les interactions répulsives. Et si on résout l'équation de Gross-Kutaisky, voici la partie réelle et la partie imaginaire de la solution de la fonction d'onde, solution de l'équation de Gross-Kutaisky pour un condensat piégé. On s'aperçoit que la fonction d'onde est réelle, elle n'a pas de partie imaginaire. Par contre, si on laisse le condensat en expansion balistique, et si on laisse les interactions répulsives jouer et donner l'explosion du condensat, on s'aperçoit qu'après 8 millisecondes, les parties réelles et imaginaires ont une forme compliquée, et ça représente le fait que les vitesses ont augmenté à cause des interactions répulsives qui leur ont communiqué une accélération aux atomes. Et à ce moment-là, la longueur de cohérence du condensat va diminuer parce que la dispersion d'impulsion a augmenté. Donc la même expérience a été recommencée sur un condensat non plus piégé mais en expansion balistique. Alors on voit ici toujours la même modulation que tout à l'heure de période 10 microsecondes et maintenant l'enveloppe. Au lieu d'avoir une enveloppe de quelques 400 microsecondes, maintenant la constante de temps décroissante n'est seulement plus que de 82 microsecondes. Ce qui montre bien à cela que la cohérence spatiale, la longueur de cohérence spatiale a diminué par suite de l'augmentation de la dispersion d'impulsion. Et là aussi, la courbe en très plein résulte d'une résolution numérique de l'équation de Gross-Kutaisky. Donc, la conclusion de cette expérience est la suivante. Les résultats de l'expérience que je viens de décrire montre que la longueur de cohérence du condensat piégé est de l'ordre de grandeur de son extension spatiale. Deuxièmement, que la coupure du piège et l'expansion balistique font apparaître des variations de phase liées à l'accélération communiquée par les interactions et que la longueur de cohérence diminue. Et enfin, les prédictions théoriques basées sur la résolution de l'équation de Gross-Kutaisky sont dans les deux cas, condensat piégé et expansion balistique, en bon accord avec les observations expérimentales. Donc en principe, ceci termine cette troisième méthode de mesure de la longueur de cohérence, mais je voudrais en profiter maintenant, comme j'ai tous les éléments en main, pour décrire une autre expérience qui a été réalisée par le groupe de Gaithersburg, permettant de réaliser ce qu'on appelle un laser à atomes. Et cette expérience, donc, utilise maintenant des transitions par effet Raman stimulé, donc des transitions Raman stimulées, entre deux états internes différents. Jusqu'à présent, je me suis toujours intéressé à des transitions Raman simulées qui ne changent pas le nombre quantique magnétique MF. On peut très bien également, en changeant la fréquence des faisceaux laser, induire des transitions Raman simulées vers un état MF différent de l'état initial. Voilà par exemple, en fonction de l'impulsion, l'énergie des trois états Zeeman, M égale moins 1, M égale 0, M égale plus 1. Ici, attention, ce n'est pas en fonction de la position spatiale et qu'il faut apparaître que cet état est piégeant et cet état n'est pas piégeant. Ici, c'est en fonction de P. Alors, vous voyez que on peut très bien absorber un photon oméga 1 et émettre de manière simulée un photon oméga 2 et changer d'état. Et à ce moment-là, la condition de résonance apparaît clairement ici. Il faut que le désaccord entre ce photon-là et ce photon-là, delta recoil, soit égal à 4 fois l'énergie de recul. Attendez, là je me suis trompé, plus delta Zeeman. Hein. Là il y a une erreur, il y a 4 fois l'énergie de recul, plus delta Zeeman. Donc là il y a une erreur. Donc il faut un plus grand désaccord entre les deux impulsions laser, mais on peut passer de manière raisonnante d'un niveau Zeeman à l'autre. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans un piège magnétique, le niveau MF égale moins 1 est piégé, mais le niveau MF égale 0, qui n'a pas de moment magnétique, n'est pas piégé. Et à ce moment-là, si on fait une transition Raman entre un état M égale moins 1 et M égale 0, l'état final n'est plus piégé et s'échappe tout seul du piège, sans qu'il soit nécessaire de couper le piège. Et on réalise à ce moment-là ce qu'on appelle un coupleur de sortie. On fait sortir les atomes du piège sans couper le piège. Comme dans un faisceau laser, le fait que le miroir est semi-réfléchissant laisse les photons sortir sans qu'il soit nécessaire de détruire la cavité. Et voilà par exemple un exemple de résultats expérimentaux. Et là on peut jouer sur la polarisation de la lumière. Si on prend, j'appelle B, la direction du champ magnétique à l'endroit où les atomes sont piégés. Si je prends deux faisceaux, commençons par ça, si je prends deux faisceaux laser se contre-propageant avec un désaccord de fréquence delta, mais de polarisation identique, parallèle à B, à ce moment-là, les seules transitions optiques qui peuvent être induites par la lumière sont des transitions delta M égale 0, et donc M ne peut pas changer aussi bien dans l'état initial que dans l'état final que dans l'état intermédiaire. À cela, on peut passer que de l'état M égale moins 1 à l'état M égale moins 1, et on obtient ici ces deux choses-là. Si par contre on prend des polarisations perpendiculaires, les règles de sélection entre l'état initial et l'état final sont delta M égale plus 1 ou moins 1, et partant de l'état M égale moins 1, on peut partir dans l'état M égale 0. Et on voit à ce moment-là, deuxième image, ici, donnant un condensat, un nuage d'atomes qui est parti plus loin parce qu'il lui a une vitesse de H par K sur M. Et lui, il a pu sortir du piège. On peut également passer de l'état M égale plus 1 à l'état M égale moins 1. Attention, c'est un peu plus subtil que l'on croit. On pourrait penser que si on prend des polarisations perpendiculaires au champ magnétique, c'est-à-dire un mélange de sigma plus et sigma moins, on peut faire des transitions de delta M égale 2. Mais comme l'état fondamental est un moment cinétique de spin, l'état fondamental a un spin électronique 1/2, les transitions delta M égale 2 ne sont pas permises. Par contre, elles sont permises dans une succession de deux transitions. Et par exemple ici, vous voyez une transition M égale moins 1, M égale plus 1, consécutive à ce processus d'ordre supérieur, absorption de pi, émission stimulée sigma moins, réabsorption de pi, émission stimulée sigma moins. Et on aboutit à l'état final M égale plus 1. Et là, on a fait une transition delta M égale 2 par ce chemin un peu plus complexe. Et effectivement, c'est bien ce qu'on observe. Ici, on voit apparaître M égale moins 1, M égale 0, M égale plus 1. Et dans la deuxième photo ici, le piège est maintenu 4 millisecondes après l'impulsion laser, de sorte que les atomes qui sont dans l'état plus 1, comme il y a le champ magnétique du piège, et que l'état plus 1 n'est pas un état qui n'est pas piégé, mais c'est un état qui est expulsé du laser, il part plus loin, et c'est la raison pour laquelle il est plus loin sur cette photo que dans cette photo. Alors, cette technique étant maîtrisée, on peut maintenant faire passer les atomes de l'état moins 1 qui est piégé dans un état M0 qui n'est pas piégé, puis faire une deuxième impulsion, puis une troisième impulsion pour sortir en permanence des atomes du condensat. Et obtenir donc un coupleur de sortie qui va faire sortir des atomes de plus en plus rapidement. Effectivement, voilà ce qui est fait ici. Ici, donc, c'est une suite d'impulsions, les atomes éjectés hors du condensat après N impulsion laser. N égale 1, c'est le cas ici, donc on parle de M égale 1, M égale 0. Puis on fait deux impulsions, puis on fait trois impulsions, ça c'est la première sortie, la deuxième sortie, la troisième sortie, puis six impulsions ici. Puis on fait une série d'impulsions avec une fréquence de répétition de 20 kHz. Et là il y a donc toute une série d'impulsions, on ne peut pas augmenter au-delà de 20 kHz dans l'expérience de Gaithersburg parce que c'est un piège top. Il faut à ce moment-là synchroniser le piège avec la rotation du champ magnétique de manière à ce que quand les impulsions laser sont appliquées, la direction du champ magnétique a une orientation bien définie. Donc on peut pas monter au-dessus de 20 kHz, mais on a donc quand même ici une suite de sorties avec une fréquence de répétition de 20 kHz, et ça peut être considéré comme un laser qui est un laser pulsé qui donne des impulsions laser avec une grande... une périodicité très courte dans le temps. Et ce qui est intéressant dans ce, entre guillemets, laser atome, c'est que comme les atomes ont une impulsion de sortie 2H4M, ils sortent très vite du condensat, par rapport au coupleur de sortie qui utilise une transition radiofréquence, que je décrirai la semaine prochaine, où les atomes ne sortent que parce qu'il y a la gravité. Donc les lasers à atomes sortis rarement sont intéressants parce que les atomes sortent vite et donc ils subissent moins longtemps la répulsion des autres atomes qui restent condensés. Et donc on a un jet atomique de sortie qui est, dont on espère qu'il est plus cohérent que dans les autres cas. Donc j'ai donc décrit aujourd'hui un deuxième type d'expérience permettant de tester les propriétés de cohérence du condensat qui utilise des transitions rarement stimulées. Et dans les deux derniers cours de la semaine prochaine, de la semaine suivante, je passerai maintenant au cas des transitions utilisant la radiofréquence au lieu de l'optique. Et je vous décrirai donc d'une part une expérience réalisée à Munich qui est extrêmement élégante, où on a alors mesuré, on a fait sortir du condensat deux ondes de matière de deux points différents pour mesurer le battement entre deux ondes de matière issues de deux points différents du condensat. Et je décrirai également l'expérience de Boulder où on crée un mélange de deux condensats dans deux niveaux hyper fins différents et on étudie donc les cohérences entre ces deux condensats simultanément. Donc je m'arrête là.